Milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, en cette période de rentrée universitaire, nous nous interrogeons que valent vraiment les diplômes. Presque partout dans le monde, les familles ont longtemps cru que les diplômes, eh bien, c'est d'abord ce qui protège le plus du chômage. Aujourd'hui, de l'Asie à l'Amérique, la proportion des jeunes qui vont à l'université atteint des sommets, jusqu'à 2/3 d'une génération qui obtient un diplôme du supérieur, par exemple en Corée du Sud, comme nous l'expliquera notre correspondant à Séoul. Sur le continent africain, c'est souvent moins de 10%, mais partout, les jeunes diplômés ont le sentiment d'une concurrence accrue entre eux, entre les diplômes, et peinent à trouver un travail à la mesure de leur diplôme. Alors, y a-t-il trop de diplômés sur la planète, alors qu'on nous dit que seule l'économie de la connaissance prime aujourd'hui ? Les familles, notamment des milieux modestes, qui ont souvent beaucoup investi, sont-elles victimes d'une forme de malentendu, voire d'une imposture ? On attend bien sûr vos témoignages, les voisins et les voisines, sur ces diplômes qui sont à la fois tellement convoités et parfois décevants. Notre numéro de téléphone, si vous souhaitez témoigner de votre situation, 33 1 84 22 71 71. Je vous présente nos invités. Séverine Chauvel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, Université Paris-Est, et vous publiez « Course au diplôme, qui sont les perdants ?». Vous êtes aussi membre de l'Observatoire universitaire international d'éducation et de prévention. Éric Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste éducation à l'OCDE, vous menez depuis des années des enquêtes comparatives sur les niveaux d'éducation, vous et toute une énorme équipe évidemment. Nous sommes aussi en liaison avec Pierre Chavot, enseignant, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez notamment dans des filières universitaires technologiques, hein, professionnalisantes. Vous publiez « Réussir avec ou sans le bac ». On parlera de ces autodidactes ou de ces jeunes sans diplôme qui sont évidemment de moins en moins nombreux proportionnellement par rapport à la masse des diplômés. En sont-ils pour autant très exclus du marché de l'emploi ? On en discutera. Vous êtes à Bordeaux grâce aux moyens techniques de France Bleu Gironde. Je vous lis des messages qui nous sont parvenus sur notre fil Facebook. Adama, qui est à N'Djamena au Tchad, nous dit « Moi, je suis au chômage depuis 2012, alors que j'ai une licence de sciences économiques. » Fabrice Akotonou au Bénin nous dit qu'il faut plutôt parler de sous-emploi et non de chômage, car tous les jeunes se débrouillent pour avoir un travail. Mais le revenu, évidemment, reste très bas et nous sommes surqualifiés pour le travail que nous exerçons, nous dit Fabrice. Abdoulaye, à Dakar, au Sénégal, aujourd'hui, il y a une réelle multiplication des diplômes à cause principalement de l'augmentation des formations privées. Ces formations vendent des diplômes. Pascal, alors évidemment, vous pouvez réagir. Hein, si vous êtes enseignant dans des formations privées en Afrique, évidemment, vous pouvez nous appeler pour répondre à Abdoulaye. Pascal, à Ouagadougou, au Burkina, chaque pays a son propre fonctionnement. Chez nous, on dit souvent que lorsque tu postules chez des Américains, ils te demanderont ce que tu sais faire. Chez les Français, quel diplôme tu as ? Et chez nous, au Burkina, on voudra savoir qui t'a envoyé. Vous trouvez que c'est bien résumé ou pas, Éric Charbonnier ?
Oui, c'est bien résumé, notamment l'importance du diplôme dans un pays comme la France, c'est clair. Mais j'aime bien cette différenciation en être au chômage et être sous-qualifié. Il faut bien comprendre que ceux qui sont au chômage, ce sont principalement les jeunes qui n'ont pas de qualification. Après, il y a un véritable problème qui est grandissant dans un nombre de pays. Avec une licence, avec un master, on peut être dans des emplois sous-qualifiés, mais c'est toujours mieux.
Donc surqualifié pour le travail qu'on exerce.
Exactement.
Séverine Chauvel.
Oui, il y a un paradoxe qu'on observe partout. C'est un plus grand accès à l'enseignement supérieur avec des objectifs quantifiés et en même temps une augmentation des inégalités. Mais on voit que le diplôme protège et reste protecteur.
Alors, justement.
Donc il y a un jeu de dupes, mais attention à ne pas non plus penser que le diplôme ne sert à rien. En fait, le diplôme, il est lié beaucoup aux ressources. Le diplôme n'est pas suffisant.
Justement, on va en parler. Hein. À quoi servent vraiment les diplômes ? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Séverine Chauvel, où est-ce qu'on en est aujourd'hui finalement? Quelle est l'ampleur de la course au diplôme en France? Ou plutôt, il faut parler d'une accélération. Si on regarde les chiffres, là, ces 30 dernières années, si on regarde les bacheliers pour une génération, on a fait x2,5, quoi, grosso modo, en 30 ans.
Oui, il y a une augmentation qui est spectaculaire. Mais en même temps, c'est toujours les plus défavorisés qui perdent dans cette course, hein, qui perdent dans ce jeu de dupes, puisqu'il y a un décalage entre ces politiques du chiffre, ces objectifs quantifiés, 50% d'une classe d'âge niveau licence qui a été réaffirmé encore cette année en France par le président François Hollande. Donc une politique qui est déconnectée de la réalité du terrain. En fait, finalement, c'est des promesses qui sont non tenues parce que sur le terrain, on voit dans les établissements, les familles et les enseignants le savent très bien, eh bien, la formation n'est pas la même. Les enfants, les élèves n'apprennent pas les mêmes choses, n'ont pas la même possibilité
dire, diplôme, de formation. Vous voulez dire, il y a diplôme et diplôme, quoi.
Exactement. Et donc, parler de diplôme de manière générale, de niveau de diplôme, ne suffit pas à comprendre en fait cette fabrique des inégalités, puisque selon les établissements, donc on a le témoignage tout à l'heure qui parlait d'écoles privées, d'écoles publiques, selon les établissements et selon l'offre en fait qui est donnée, il y a la question aussi de la pédagogie qui doit être essentielle. C'est le cœur de l'école.
Il y a une énorme différence.
Et donc on oublie en fait que au cœur de l'école, c'est ce qui compte, c'est l'apprentissage finalement.
Éric Charbonnier, dans l'ensemble des pays développés ou émergents, la proportion des jeunes qui font des études a également explosé là, ces 30 dernières années. Il n'y a pas que la France.
Complètement. Depuis 40 ans, c'est le phénomène le plus notable dans toutes nos statistiques. Le baccalauréat, un diplôme du secondaire, c'est devenu la norme dans la plupart des pays. Et dans un grand nombre de pays, il y a plus de 40% des jeunes des 25-34 ans qui sortent avec un diplôme du supérieur. C'est quasiment deux fois.
C'est le cas en France.
C'est le cas en France et il y a certains pays comme les pays d'Asie, Corée, Japon, où là, on a multiplié par 4 la proportion de diplômés du supérieur en l'espace de 30 ans. Donc, c'est un phénomène. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut réfléchir au contenu des programmes et aussi au débouché sur le marché du travail.
Mais alors, qu'est-ce qui a poussé à cette inflation des diplômes? Les statistiques des économistes comme vous qui disaient le diplôme va vous protéger du chômage. Et c'est vrai d'ailleurs, hein, si on regarde les chiffres de la France, la moyenne des jeunes au chômage, quand on a un diplôme d'enseignement supérieur, on va être presque deux fois moins au chômage que la moyenne nationale d'une même classe d'âge. Donc c'est vrai que ça protège du chômage.
Mais il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Hein. C'est le réseau, c'est les relations, c'est vraiment l'origine familiale qui pèse très très lourd en fait dans ces différences et aussi le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'on fait avec ces politiques avec des objectifs quantifiés, on fait reposer sur l'école et sur la famille la responsabilité du chômage. Et on n'interroge pas, en fait, la question, les effets de la crise économique.
Et ce qui a changé aussi, c'est de se rendre compte du lien entre l'éducation qu'on peut acquérir et la croissance économique. Aujourd'hui, il est clair que plus on a un diplôme élevé, plus on contribue à la croissance économique. Ce n'était pas forcément aussi net il y a 40 ans. Donc, ça a poussé à développer les programmes, à inciter les jeunes à aller vers les universités. Donc, ça, c'est un des aspects vraiment...
Parce que pour que l'économie d'un pays fonctionne bien, l'idéal, c'est d'avoir quelle proportion de diplômés dans une classe d'âge?
Il n'y a pas forcément
de
proportion. Ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les pays qui sont proches de 50% de diplômés de l'enseignement supérieur, on n'est pas forcément dans une zone où il y a trop de diplômés. C'est ce qu'on a pu observer dans l'OCDE. Aujourd'hui, il y a des pays comme la Corée et le Japon qui ont 60-70% des jeunes qui sortent avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Alors là, il commence à y avoir un problème sur le marché du travail, mais autour de 40-50%, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a de la place pour encore davantage de jeunes.
C'est ça.
Mais
vous,
il y a un besoin...
Vous ne dites pas il y a trop de diplômés sur la planète.
Non, il n'y a pas trop de diplômés, mais il y a un besoin d'aller vers du qualitatif. Ce qu'on peut constater, c'est que dans certains pays, la licence n'est pas très utile pour s'insérer sur le marché du travail, alors que le master offre beaucoup de débouchés. Donc,
ça veut dire qu'on continue l'inflation scolaire. On continue à étudier toujours plus longtemps, plus cher, etc.
Oui, plus cher,
là,
ça dépend.
Vous nous dites que le master, c'est mieux que la licence.
Et ça dépend. Ça, dans
sauf
certains,
la licence professionnelle.
Voilà, si on prend des pays comme l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis, une licence permet d'avoir une superbe insertion sur le marché du travail. Dans un pays comme la France, la licence n'a pas une grande valeur et il vaut mieux continuer jusqu'au master pour avoir un diplôme qui permet une meilleure intégration sur le marché du travail.
Concrètement, là, à la rentrée de septembre, cette rentrée universitaire, il y a eu 4% d'effectifs d'étudiants supplémentaires avec, en fait, aucune limitation des ressources financières. Pour accueillir ces étudiants, il n'y a pas eu d'effort fait. Donc, on augmente effectivement, le nombre d'étudiants augmente, mais l'accueil des étudiants reste le même. Donc là, on voit que il y a un décalage qui permet pas de les accueillir toutes et tous dans les meilleures conditions à l'université en France.
Pierre Chavot, vous êtes en liaison avec nous à Bordeaux. Vous êtes un enseignant dans le supérieur, mais plutôt dans des filières professionnalisantes, dans différentes filières. Vous avez écrit un livre, Réussir avec ou sans le bac. Mais enfin, vous fréquentez essentiellement des étudiants qui ont le bac, non ?
Pas seulement, parce que dans mon entourage personnel, je fréquente aussi des jeunes qui ne sont soit pas scolarisés, soit qui ont choisi et suivent des filières un peu différentes du supérieur. Et ça rejoint, d'ailleurs je suis ravi de ce que disent Séverine Chauvel et Éric Charbonnier, parce que c'est exactement ce que raconte le livre, c'est-à-dire cette suprématie du diplôme qui est devenue très pénalisant, ce poids croissant et paralysant des réseaux de l'origine familiale qui donne à penser à certains jeunes et à beaucoup d'ailleurs que l'avenir n'est pas fait pour eux et qu'ils sont laissés au bord de la route.
Mais ce poids croissant des réseaux de l'origine familiale, est-ce que finalement c'est pas parce qu'il y a trop de diplômés sur le marché du travail que du coup forcément ceux qui ont une famille pour les aider, d'autres ressources que leur diplôme, finalement s'en sortent mieux? Est-ce que la concurrence n'a pas succédé à l'espoir que le diplôme allait tout ouvrir?
Alors, il y a trois choses, je pense. Marie Dirubella, donc sociologue, avait déjà travaillé depuis longtemps sur cette inflation du diplôme, en montrant que c'est un appauvrissement en fait de la connaissance. On dilue au profit d'une minorité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme le disait Séverine Chauvel, la pédagogie des écoles, notamment des écoles privées qui forment des masters, et j'interviens dans certains de ces établissements, et j'ai la chance justement de travailler dans un cadre pédagogique extrêmement ouvert et qui permet à ces étudiants de ne pas être trop spécialisés et d'accéder à une connaissance générale. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, les gens qui n'ont pas de diplôme, un autre sociologue, Bertrand Berger, l'a montré dans un ouvrage récent, il y a 2 ans environ, eh bien, que ces gens-là, et ça a été mon cas, puisque j'ai pas le bac, ces gens-là, à un moment de
on a fait une émission avec Bertrand Berger, effectivement, sur les autodidactes.
Voilà, c'est ça. Et ces gens-là, cette catégorie-là, et je suis bien sûr loin d'être un cas unique, se disent à un moment, pourquoi pas moi? Et c'est là que se situe le ressort de la réaction.
Éric Charbonnier, vous souhaitez réagir là sur ce que disait Pierre Chavot, notamment sur les études avec une connaissance générale, alors qu'aujourd'hui, l'économie a tout de même aussi besoin de gens qui sont très qualifiés sur le plan technique.
Oui, c'est pour ça que le diplôme, c'est un aspect. Mais nous, à l'OCDE, on s'oriente beaucoup sur les compétences. Il faudrait aussi réfléchir sur le contenu des formations pour développer certaines compétences, le travail en équipe, les capacités de diriger des projets, les capacités de maîtriser certaines valeurs qui permettront d'être bien inséré dans sa vie. Aujourd'hui, le diplôme, il faut dépasser les simples connaissances pour se dire quelles sont les compétences que les jeunes doivent avoir une fois qu'ils vont sortir avec un diplôme, quel que soit le diplôme.
Oui, comme je dis dans mon livre, en fait, cette notion de compétence, elle est lié vraiment à un souci d'insertion professionnelle. Et c'est une vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'école ne fait que préparer au marché du travail, sachant que c'est très difficile de prévoir en fait d'avoir une prédiction sur les emplois et le type d'emploi. Et c'est pour ça que la question du lire, écrire à l'école, en fait, elle doit rester déterminante. Et pour moi aussi, la question des connaissances générales et
pas facile pour un jeune tout de même qui choisit les études vers lesquelles il va s'orienter ou son école, de savoir exactement ce qu'il va apprendre au cours de ses études. C'est tout de même pas simple de se renseigner là-dessus. En tout cas, vous nous appelez si vous êtes étudiant, si vous êtes jeune diplômé, si vous vous posez des questions sur la valeur de votre diplôme. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On vous attend.
33 1 84 22 71 71.
Soyez les bienvenus.
Nous accueillons un voisin qui nous appelle de Bamako au Mali. Bonjour Lassana.
Bonjour Emmanuel.
Lassana, je crois que vous êtes titulaire d'un master 2 de droit privé, c'est bien ça, à l'université de Bamako?
Oui, effectivement, je suis diplômé, j'ai un master en droit privé des affaires.
Oui.
Oui, donc j'ai fini mes études supérieures en 2014.
Oui.
Donc pour ne pas être en chômage, donc je me suis engagé à faire les concours d'entrée à l'IFM, des IFM, l'Institut de formation des maîtres.
Oui, donc pour devenir enseignant.
Pour devenir enseignant.
Oui, mais au départ, ce n'était pas du tout votre projet, finalement, si vous étiez dirigé vers la fac de droit.
Oui, j'étais dirigé vers la fac de droit. Mais vu le problème de l'emploi, j'ai des collègues, des camarades qui n'ont pas eu d'emploi dans mon domaine, j'ai refait. Donc, pour ne pas être comme eux, j'ai décidé de m'engager à faire le concours et d'entrer à l'IFM en 2014 avec mon bac.
Oui.
Avec mon bac. Donc maintenant, avec mon bac, j'ai fait 2 ans d'école à l'Institut de formation des maîtres.
Ah oui, vous auriez pu entrer dans cet institut de formation des maîtres uniquement avec votre bac. Donc, votre master 2, à quoi vous sert-il aujourd'hui si vous travaillez comme enseignant?
Mon master en droit privé ne me sert à rien. Je l'ai seulement en main pour le moment.
Oui, d'accord.
Seulement en main.
Oui, Éric Charbonnier.
Oui, c'est très intéressant. C'est aujourd'hui, justement, il y a certaines filières, certains diplômes qui ne sont pas reconnus par le marché du travail parce que le marché du travail regarde que le domaine d'études, droit, sciences humaines, psychologie. On sait que ce sont des diplômes qui n'ont pas forcément de très bons débouchés sur le marché du travail. C'est pour ça qu'il faut que le marché du travail ait plus de flexibilité. Si on prend l'exemple au Danemark, on ne regarde pas le domaine d'études, mais on regarde les compétences des élèves. On considère que quelqu'un qui a un master en psychologie ou en droit va pouvoir travailler dans le domaine de l'économie, dans les sciences de l'éducation. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un véritable travail pour décloisonner l'importance du domaine d'études par rapport au travail qu'on exercera plus tard.
C'est-à-dire que le diplôme avec le nom en fait est très marquant, peut être très très marquant et peut aussi être un petit peu enfermant, alors que si on travaille plus sur le parcours avec les entretiens pour au moment de l'embauche, en fait ça ouvre plus.
Lassana, merci beaucoup de nous avoir appelé. Le parcours de Lassana, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler un jeune déclassé ou pas, finalement? Est-ce qu'on retrouve ces cas de figure partout en Europe, dans les pays développés, un jeune qui a un bac plus 5 et qui accède à un emploi auquel il aurait pu accéder à bac plus 2, puisque c'est ce qui se passe pour Lassana?
On retrouve ça dans beaucoup de pays industrialisés européens qui n'ont pas justement cette flexibilité du marché du travail. C'est le cas de la France, où vous avez à peu près 40% des diplômés d'un master qui sont dans des emplois sous-qualifiés 5 ans après l'obtention du diplôme. C'est le cas dans les pays d'Europe du Sud. Et à contrario, dans les pays nordiques, il y a cette flexibilité qui permet que quand on sort avec un master, quel que soit le domaine d'études, on a cette possibilité de trouver un emploi à la hauteur de sa qualification. Donc je crois que ce qui est le cas de Lassana n'est pas un cas isolé. Beaucoup de pays qui ont augmenté leur proportion de diplômés sont dans cette situation. C'est pour ça qu'il faut vraiment rapprocher notamment le monde universitaire et le monde de l'entreprise.
Et ça dépend aussi, il faut comparer ce qui est comparable de la situation économique du pays. Je pense que là, il ne faut pas oublier cette variable-là pour comprendre aussi comment se passe
C'est-à-dire que dans un pays comme la France, où il y a déjà un vrai problème de chômage des jeunes, effectivement, les jeunes diplômés ne sont pas épargnés. Vous restez avec nous, Éric Charbonnier, Séverine Chauvel, Pierre Chaveau. Nous poursuivons le débat sur les diplômes. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve juste après le flash, c'est-à-dire dans un tout petit peu plus de 3 minutes. Et d'ailleurs, on verra ce qui se passe exactement pour les diplômés en Corée du Sud.
Autour, 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On parle d'éducation aujourd'hui. À quoi servent vraiment les diplômes? C'est toujours une bonne question en cette période de rentrée universitaire, puisque, on le disait, presque tous les pays du monde, ces 40 dernières années ou 30 dernières années, ont vu s'allonger la durée de la scolarité au-delà du baccalauréat ou de l'équivalent du baccalauréat pour répondre à une demande croissante d'accès aux études supérieures, poussée aussi par les économies. C'est ce que vous nous disiez, Éric Charbonnier. Vous êtes spécialiste de l'éducation à l'OCDE. On discute également avec vous, Séverine Chauvel. Vous publiez « Course au diplôme, qui sont les perdants ?» Et Pierre Chaveau, vous êtes en liaison avec nous de Bordeaux. Vous êtes enseignant et vous publiez « Avec ou sans le bac ». On le disait aussi, 38% des jeunes sans diplôme en France sont au chômage, donc largement, largement plus au chômage que les diplômés de l'enseignement supérieur qui sont aux alentours de 10%. Donc ça fait quand même une grosse différence. Oui, le diplôme continue de protéger contre le chômage. Néanmoins, il y a beaucoup de frustration d'auditeurs qui nous envoient des messages, quels que soient les pays d'ailleurs, disent bah voilà, avec un bac plus 5, j'occupe un emploi que j'aurais pu occuper à bac plus 2, est-ce que c'est normal? Tout de suite, prenons la direction de la Corée du Sud, si vous le voulez bien. On est en ligne avec Frédéric Ojardias. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Séoul. Alors la Corée du Sud est un pays où règne une véritable obsession nationale, culturelle pour le diplôme universitaire. Expliquez-nous un peu.
Oui, ici le diplôme c'est vraiment un marqueur de statut social et il est vu comme le seul et unique moyen de décrocher un bon emploi et donc de faire un bon mariage et de réussir entre guillemets sa vie. Hors de diplôme, pas de salut dès leur plus jeune âge. L'enfance des petits sud-coréens est vraiment sacrifiée sur l'autel du dieu diplôme. La conséquence c'est que 80% des lycéens entrent à l'université, 2/3 d'une classe d'âge décrochent un diplôme universitaire. C'est le taux le plus élevé des pays de l'OCDE. Le problème est Emmanuel, c'est qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Et du coup, pour ne pas être frappé du stigmate de chômeur, certains retardent artificiellement l'obtention de leur diplôme pendant des années. Et en attendant, ils multiplient les stages ou se font livreurs, serveurs, caissiers. Les jeunes coréens entrent ainsi sur le marché du travail beaucoup plus tard que dans les autres pays asiatiques. Selon plusieurs études, 25% d'entre eux sont surdiplômés pour leur travail et la moitié occupent un emploi qui n'a absolument rien à voir avec le domaine de leurs études. Mmh. Et puis on voit par exemple des diplômés au chômage se mettre à apprendre la soudure, un secteur qui lui recrute.
C'est ça, vous disiez pas d'emploi pour tout le monde, enfin pas d'emploi qualifié pour tout le monde à la hauteur des études qui ont été faites. Mais alors quelles sont les conséquences pratiques de cette saturation des diplômes finalement dans un pays comme la Corée du Sud?
La première conséquence, c'est un chômage des jeunes qui bat des records. Les jeunes diplômés visent en priorité les tchéboles. Vous savez, c'est ces conglomérats comme Samsung, des conglomérats aux emplois prestigieux, bien rémunérés, mais hyper compétitifs. Et ces jeunes diplômés snobent les PME qui sont moins prestigieuses. L'auto-entrepreneuriat est encore très mal vu. Ces jeunes diplômés peuvent ainsi passer des années à préparer les très difficiles concours annuels d'embauche organisés par chaque tchébol. La conséquence, c'est un gâchis de temps et d'énergie phénoménal qui, lui, a un vrai coût économique. Et puis le problème s'aggrave puisqu'en raison de la crise, les conglomérats embauchent de moins en moins. Cette année, les recrutements ont baissé de 10%. Puis une autre difficulté, c'est que les universités sont privées, elles coûtent cher, si bien que non seulement ces surdiplômés sont chômeurs, mais en plus ils sont endettés, ils ne se marient pas, ils continuent de vivre chez leurs parents, ce qui contribue au déclin du taux de natalité qui est l'un des plus bas au monde, avec 1,2 enfants par femme seulement.
Et est-ce que le gouvernement tente de trouver des solutions pour mettre fin à cette surqualification de sa jeunesse?
Oui, Emmanuel, il essaye beaucoup de choses. Il essaye d'abord de changer les mentalités, de faire comprendre qu'on peut très bien réussir sa vie avec juste son bac en poche. Il a demandé, par exemple, au Tchébol d'embaucher plus de jeunes qui sortent du lycée. Un footballeur n'a pas besoin d'être diplômé de l'Université nationale de Séoul pour bien taper dans la balle, avait ainsi déclaré le précédent président. Mais ses efforts et puis toutes les politiques pour valoriser les formations techniques n'ont vraiment eu aucun effet tangible. Le gouvernement essaye aussi de faire fermer les universités privées les moins bien cotées pour qu'elles cessent de produire à la chaîne des diplômés chômeurs. Et puis depuis 2 ans, il tente une nouvelle approche, favoriser la création de start-up pour encourager les jeunes à se créer leur propre emploi. Mais changer les mentalités reste difficile. Et ici, enfin, je le vois autour de moi, beaucoup de parents coréens grincent encore des dents quand leur rejeton pour lequel ils ont tout sacrifié pour obtenir la meilleure éducation possible, et bien leur annonce qu'il va créer son entreprise ou sa start-up.
Oui, donc c'est pas simple. Merci beaucoup Frédéric Ojardia. C'est Eric Charbonnier. La Corée du Sud, c'est un pays qui a été très remarqué par l'organisation à laquelle vous appartenez, l'OCDE, dans les comparaisons internationales que vous éditez, hein, pour la qualité de son système éducatif, relativement équitable aussi, où le niveau des élèves au lycée, en tout cas, est particulièrement élevé. Mais ça se termine mal à l'université, hein, quand on entend ce que nous dit Frédéric Ojardia.
La Corée du Sud, c'est un pays qui a tellement progressé rapidement qu'aujourd'hui, il y a une réflexion à avoir. Il faut s'imaginer, il y a 40 ans, vous aviez moins de 20% de jeunes des 25-34 ans qui avaient un diplôme de l'enseignement supérieur. On est à plus de 60% aujourd'hui. Et je crois qu'un des défauts, et de certains pays, c'est qu'il faut diversifier les formations universitaires, les formations du supérieur, notamment en développant une formation professionnelle de qualité. C'est peut-être un des défauts aujourd'hui du système coréen, c'est qu'on a privilégié les filières académiques au détriment des filières professionnelles, alors que les filières professionnelles débouchent sur des emplois qualifiés. On le voit au Japon, on le voit en France, où ces bac plus 2, où ces mêmes bac dans des filières professionnelles proposent des débouchés qui sont intéressants sur le marché du travail.
Finalement, vous diriez que la Corée du Sud, aujourd'hui, les raisons qui ont fait son ascension économique, son succès, lui reviennent en boomerang et qu'elle se trouve dans une impasse ou pas ?
Elle n'est pas dans une impasse. Il faut avoir une réflexion sur le contenu des filières professionnelles, diversifier, créer peut-être des bacs plus 2, développer au lycée les bacs professionnels qui débouchent sur des emplois, parce qu'il y a des besoins très forts dans certains domaines, le numérique par exemple. Donc ça demande à une réflexion sur le contenu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas se contenter de filières, il faut réfléchir au contenu des programmes, aux compétences qu'on a.
Ce que vous disiez tout à l'heure, Séverine Chauvel, justement.
Juste ce qui me gêne dans la notion de compétence, c'est que finalement c'est le rêve des patrons. Parce que la compétence, ça veut dire que l'école, elle pourrait être confondue avec l'entreprise. Il y a les compétences en entreprise, les compétences à l'école. Et finalement, le diplôme, qu'est-ce qui devient ? Est-ce que c'est une disparition du diplôme que de parler en termes de compétences seulement ? Ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt privilégier les apprentissages ? Un véritable contenu, en fait, hein, de qu'est-ce qu'on apprend aux élèves, comment on leur apprend, et aussi prendre en compte les difficultés de certains élèves pour essayer de ne pas créer, en fait, ces échecs.
Pierre Chavot.
Oui. Moi, je pense aux milliers de jeunes. Je crois que c'est 140 000 jeunes par an qui sortent du système scolaire chaque année.
Oui, au moins 120 000 en tout cas.
Voilà, c'est le chiffre officiel que j'avais eu. Je pense à tous ces talents gâchés. Et je me dis, quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas, et ça rejoint ce que disent bien sûr les deux autres invités, permettre à ces catégories sociales, effectivement, le plus souvent défavorisées, d'avoir accès aux passerelles, parce qu'il existe des passerelles de formation, être beaucoup plus qualifiant, tenir davantage compte de l'individu, ce qui existe dans d'autres pays, où le diplôme est une chose, mais l'individu l'est aussi, c'est-à-dire que son investissement dans la société, les actions qu'il mène, est-ce qu'il participe à des associations, le sport qu'il pratique, etc. Et supprimer aussi cette sélection impitoyable, horrible, en première année, je vois à Bordeaux, en fac de psycho, c'est un tirage au sort, voilà. Et donc, si vous avez vraiment...
Comment ça, un tirage au sort ? Il y a des examens à la fin de l'année à l'université.
En première année, non, pour accéder en première année.
Pour accéder, d'accord.
Voilà, pour accéder en première année. Bon, je ne parle pas des sélections et de master, etc. Et ça rejoint ce que disait M. Charbonnier.
Si ce n'est pas du tirage au sort, c'est quoi ? C'est de la sélection sur dossier.
Non, en première année de psycho, et le cas est...
Non, mais justement, elle est interdite, qu'est-ce que vous préconisez? Oui, le tirage au sort a quelque chose d'extrêmement injuste, la sélection à l'entrée à l'université est interdite, donc quoi?
Permettre aux gens qui ont envie de faire psycho, mais pour ça, il faut avoir les moyens. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, si vous voulez, parce que, je le vois ici à Bordeaux, quand j'interviens dans le DUT à Bordeaux.
Mais alors, permettre 3. Aux gens qui veulent faire psycho de faire psycho, s'ils ne trouvent pas de travail en tant que psychologue, dans ces cas-là, il faut un système qui va valoriser leurs études de psycho pour faire un autre métier.
Et là, c'est déconnecté de la question du travail, le nombre de places en première année de psycho. C'est vraiment comme... vous le dites, une question de moyens où il y a des TD, des groupes qui sont à plus de 50, où les étudiants ne peuvent pas s'asseoir, où à Toulouse, la licence de psycho n'a pas pu ouvrir, etc.
Mm-hmm. Pour moi, c'est surtout aussi une grande hypocrisie, parce que la sélection, elle existe en France. Quand on veut faire un DUT, un bac plus 2, on est sélectionné. Une grande école, on est sélectionné. Certaines universités, on est sélectionné. Puis dans d'autres licences, on dit pour la liberté de tous, il n'y a pas de sélection. En fait, aujourd'hui, ça crée des véritables problèmes d'orientation. Ça fait des élèves qui sont refusés des autres filières et qui vont par défaut vers les filières de psychologie, soit pour ne pas pouvoir y entrer, soit pour y échouer dans les premières années. Donc, il faudrait rendre sélectives toutes les filières à l'université pour rendre le système plus égalitaire quelque part et améliorer l'orientation.
Alors, pour moi, il y a une contradiction dans les termes, parce qu'on est vraiment, ça serait vraiment un recul très fort de rendre sélectives les filières universitaires. La question se pose là aujourd'hui de manière ouverte pour le master. En fait, il y a un débat autour de la sélection entre le M1 et le M2.
Aujourd'hui, on a quand même des étudiants qui vont massivement encore vers l'université, même si on a quand même 18% des étudiants qui vont vers des écoles privées et qui ont quand même de vrais débouchés.
J'ai pas fini de...
Oui, je vous en prie,
pardon,
Pierre Chavot. Allez-y.
Excusez-moi, je voudrais juste intervenir parce que, bien sûr, je suis d'accord sur tout ce qui vient d'être dit. Je voulais revenir sur ce qu'a dit M. Charbonnier sur l'entreprise. Il se trouve que, par exemple, dans les UT où j'interviens à Bordeaux 3, mais pas seulement, dans les écoles aussi où j'interviens, qui sont des écoles privées, dans lesquelles des étudiants se saignent aux 80 pour payer leurs études parce qu'ils n'ont pas trouvé l'équivalent dans le secteur public, la plupart des intervenants sont des professionnels. Et ces écoles sont extrêmement professionnalisantes. Alors, je ne peux pas parler pour toutes les écoles privées, bien entendu. Et je pense qu'une partie de l'avenir, c'est la professionnalisation, la qualification. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, et je le vois encore une fois autour de moi, quand les étudiants se présentent à un stage, l'entreprise a le réflexe systématique de prendre un diplômé au détriment d'un non-diplômé ou d'un moins diplômé, mais à compétences égales. Et il y a une question de mentalité aussi à changer de ce côté-là, si on veut que notre société avance et que ces jeunes y trouvent leur place.
Mais ça veut dire, effectivement, la question... Est-ce que le service public n'est pas en train de disparaître? Parce que si on ferme, en fait...
Oula, on n'avait pas lancé un débat là-dessus, tout de même.
Si on augmente, en fait, l'enseignement privé, ça veut dire endettement des étudiants?
Mais je sais bien, oui, c'est un problème.
Bon. En attendant, on laisse s'inscrire des étudiants, peu importe, à l'université, dans des écoles privées. En attendant, ils ne vont pas grossir les statistiques du chômage. Finalement, qui peut avoir intérêt à l'allongement de la durée des études aujourd'hui dans des pays où il y a un vrai problème de chômage, Éric Charbonnier?
Oui, et le développement du privé, c'est une tendance dans beaucoup de pays européens parce que les écoles publiques, et notamment dans les pays où il y a peu de frais d'inscription, n'ont pas les moyens d'assurer à plus davantage d'étudiants et d'assurer qu'ils pourront obtenir des diplômes. Donc la privatisation, c'est une tendance. Mais en effet, quand les débouchés sont là, certains pays n'hésitent pas à avoir des frais d'inscription élevés et développent des prêts d'études qu'on rembourse une fois qu'on a obtenu un certain niveau de revenus sur le marché du travail. C'est pas
Donc,
forcément...
l'allongement de la scolarisation, elle profite quand même beaucoup au secteur privé, non ?
Oui et non, ça dépend dans certains pays. Dans certains pays, les écoles publiques ont les moyens d'assurer cet allongement de la scolarité. Dans d'autres, ce n'est pas le cas.
On va à accueillir des auditeurs qui, bien sûr, souhaitent s'exprimer. Que valent vraiment les diplômes? Je crois que c'est vraiment une interrogation qui est très largement partagée dans de nombreux pays, même s'il y a des configurations économiques, un marché du travail très différent d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
On accueille un auditeur qui nous appelle de Niamey au Niger. Bonjour Sidi, soyez le bienvenu.
Bonjour. Bonjour.
Nous vous écoutons Sidi. Alors vous êtes étudiant, diplômé, quelle est votre situation?
Ma situation, la situation au Niger, c'est qui crée beaucoup de chômage des diplômés. C'est que la plupart des étudiants, ils se dirigent vers un seul, vers les sciences économiques. La plupart, plus de 110% des étudiants. Ils étudient la science économique. Du coup, il y a une saturation
au
niveau du marché du travail ici. Par exemple, mon cas, moi, je suis ingénieur statistien. Donc, j'ai eu simplement du boulot parce que c'est un secteur qui n'est pas très dominé par le travail.
Mais alors, attendez, après le bac, vous êtes passé par quelle faculté? Vous avez étudié les statistiques directement?
C'est pas une faculté, c'est une classe préparatoire.
D'accord. C'est une école privée ou c'est l'université publique à Niamey pour les stats?
Non, j'avais une bourse marocaine.
Donc vous avez étudié où concrètement? Ah, vous avez étudié au Maroc. D'accord.
À l'INSEA.
D'accord. Donc vous
n'êtes... L'Institut national des statistiques et d'économie appliquée.
D'accord. Donc vous avez choisi un cursus très précis, très technique d'étudier les statistiques.
Oui.
Vous n'êtes pas allé à l'université de sciences économiques à Niamey grâce à une bourse, parce que si vous n'aviez pas eu cette bourse... la formation aurait été payante au Maroc.
Oui, très payante, très chère encore.
Alors, quelle est
la situation du...
Oui.
Vu la situation de la pauvreté au Niger.
Oui.
La plupart, c'est avec des... J'ai dit, vu la situation de la pauvreté ici, la plupart, c'est avec des bourses qu'ils trouvent des études à l'étranger.
On a bien compris. Et aujourd'hui, vous avez du travail?
Oui, aujourd'hui, j'ai du travail. Parce que c'était un domaine très précis. Là où il n'y a pas beaucoup de diplômés autres.
Comment vous réagissez? Alors, bon, évidemment, votre témoignage, j'imagine que vous souhaitez nous dire qu'il faut choisir d'étudier des filières qui sont très techniques, avec un savoir-faire très précis, voilà, où on continue de rechercher ces savoir-faire parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux sur le marché du travail. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir appelé, Sidi. Éric Charbonnier.
Mais c'est exactement ça aujourd'hui le problème de certaines universités où les formations sont trop théoriques. Ça ne débouche pas sur des emplois. Alors bien sûr, il faut valoriser certaines formations techniques, mais il faut aussi avoir des réflexions sur les systèmes d'orientation. Aujourd'hui, les jeunes ne savent pas assez bien quand ils démarrent une formation universitaire quel est le type de métier qu'ils peuvent avoir à la fin, leurs chances de réussite, le niveau de salaire qu'ils vont avoir. Je crois que c'est important d'améliorer les systèmes d'orientation entre secondaire et universitaire. Et les pays ont tellement investi dans la massification qu'ils ont peut-être négligé cet aspect qui est important pour être plus efficace entre les études et l'insertion.
Du côté des familles aussi, est-ce qu'on n'a pas privilégié le diplôme en tant que tel? C'est-à-dire, il faut que tu obtiennes un diplôme de l'enseignement supérieur, quel qu'il soit, il te protégera avant tout.
Oui, mais je pense à raison. Après, la question de l'orientation, elle cache celle de l'offre de formation et en fait de ce qu'est-ce qu'on veut faire à l'école et qu'est-ce qu'on offre avec un système qui est très à deux vitesses en fait, avec des écoles qui sont privées, avec des écoles qui sont élitistes et des moyens différents qui sont mis selon les établissements. Donc il faut pas reporter la responsabilité des parcours aux familles et aux étudiants.
Et aux étudiants qui auraient mal choisi leur orientation.
Ça les fait culpabiliser et ça fait qu'ils se rendent responsables eux-mêmes en fait de leur parcours.
On accueille un auditeur qui nous appelle de Paris. Bonjour Aliou.
Oui, bonjour.
Vous êtes mauritanien, étudiant en France?
Oui, je suis mauritanien, étudiant en France depuis maintenant 6 ans.
Oui.
Donc, je suis venu ici en France en 2010. Donc,
oui.
Avant de venir ici, j'ai eu la maîtrise à l'Université de Nouakchott,
oui.
Sociologie et philosophie. Donc, quand je suis venu ici, je fais de la sociologie, je refais un master à Paris Descartes, et après j'ai fait la science politique, donc les spécialités en conseil collectivité en développement durable. Donc ouais. On m'a très bien conseillé pour choisir ce master, étant donné qu'il y a beaucoup d'offres après dans les collectivités, dans les communautés de communes, dans les agglomérations et tout. Mais quand je l'ai eu depuis 2013, j'ai eu mon master 2 et depuis, j'ai cherché bec et ongle, mais je n'ai pas pu trouver un travail qui vraiment correspond à ce que j'ai cherché, à ce que j'attendais. Et donc là, il a fallu que je m'inscrive encore à INALCO, à l'Institut d'INALCO.
Oui, pour étudier des langues orientales.
Des langues orientales, étant donné que ma langue maternelle est belge, donc j'ai de faire là-bas une formation pour enseigner cette langue, mais c'est pas ce que j'attendais, puisque le master que j'avais fait à Paris 13.
D'accord, donc vous avez commencé votre carrière d'étudiant dans la sociologie et vous allez terminer comme prof de PEUL, hein, c'est bien ça?
Ouais, c'est ce que je risque de devenir.
Parce que là, il y a des besoins, d'accord. Très bien. Et vous êtes déçu ou pas, finalement?
Trop déçu, puisque quand je faisais mon master de la Paris 13, c'était une très bonne formation, d'ailleurs, l'intitulé et les débouchés qui sont écrits. Et j'ai même eu de stage à la mairie de Villeneuve comme étant chargé de mission Agenda 21. Donc, mais après avoir rempli mon contrat, quand j'ai fini, j'ai tout compris que le master que j'ai choisi, soit si je voulais vraiment obtenir ici un travail bon et difforme, il fallait que j'ai la nationalité française, puisque c'est dans les mairies.
Les étudiants en sociologie en France ont eux aussi de grosses difficultés d'insertion. Mais effectivement, le fait d'être un étudiant étranger ne simplifie pas votre parcours. Merci beaucoup de nous avoir appelé. En tout cas, voilà l'exemple d'un étudiant qui est satisfait du contenu de ses études, mais qui reçoit une douche froide à la sortie.
Je pense qu'il y a vraiment un phénomène en France de discrimination, notamment à l'embauche par rapport aux étudiants et aux candidats étrangers, qui n'est pas abordé de front. Et là, visiblement, voilà, il y a cette dimension-là qui compte. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur à quoi servent les études, à quoi sert le diplôme. On ne peut pas considérer que le diplôme, c'est juste de la rentabilité, un instrument de compétitivité, puisqu'il faut aussi voir à moyen terme et à long terme. La formation reçue, en fait, dans un parcours, dans le parcours de vie, a son importance et l'aura pour des années et des années.
Éric Charbonnier.
C'est un exemple encore où la spécialisation, on est dans un marché du travail de plus en plus évolutif, où on va changer de travail, on exercera différemment, et se spécialiser, c'est pas forcément ce qu'attend le marché du travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faudrait des grilles, comme en Angleterre, dans les pays nordiques, où chaque élève qui sort avec un master maîtrise certaines compétences, le travail en équipe, diriger un projet, être capable de faire des synthèses, et qui finalement, il pourra être employable dans tous les domaines. Et il sera aussi heureux dans cette idée que si on fait des études de sciences économiques, on ne va pas peut-être travailler toute sa vie dans les sciences économiques. Il faudrait sortir de cette idée qui nuit finalement aussi aux étudiants.
Et que c'est ça, et que les étudiants admettent cette réalité-là. Pierre Chavot, bon, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de jeunes diplômés au chômage. On a même des jeunes diplômés surendettés dans les pays qui atteignent vraiment un paroxysme en termes de coûts d'études. Si on prend le cas des États-Unis, par exemple, 1300 milliards de dollars pour la dette étudiante. Cette course au diplôme, on le comprend bien quand même, hein, crée beaucoup de frustration, de déséquilibre aussi dans la société. De dysfonctionnement. Vous, quelle piste de solution vous voyez?
Alors, pas une expansion encore supérieure des écoles privées, puisqu'elles ont le mérite d'exister, mais ces 10 dernières années, elles ont vraiment beaucoup progressé dans le domaine de l'enseignement. Redonner, je pense déjà, au secteur public sa véritable vocation, parce qu'il a été un peu malmené ces dernières années. C'est-à-dire, comme le disait M. Charbonnier, avec l'exemple des pays anglo-saxons, enfin l'Angleterre et les pays nordiques, c'est cette pluridisciplinarité, même si on choisit une filière plus spécialisée, éviter cette hyper-spécialisation. Il existe des... des initiatives comme l'école 42 de Xavier Niel, l'école de Thierry Marx, le cuisinier ici en Gironde.
Pour des jeunes qui n'ont pas le bac, justement. Hein.
Voilà, et qui sont extrêmement qualifiantes. Il existe aussi des universités qui s'ouvrent maintenant à l'évaluation des compétences, bien sûr du diplôme, mais surtout des compétences pour permettre aux étudiantes et aux étudiants d'accéder plus facilement à des filières et surtout à du travail. Et je pense que c'est une volonté politique générale. Et comme vous le disiez, on ne peut pas gouverner au début de l'émission, on ne peut pas gouverner l'éducation et avec les chiffres. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le vivant. Sachant qu'effectivement, dans les années à venir, dans une même existence, qui est déjà le cas de nos générations, on sera appelé à vivre plusieurs expériences professionnelles, voire plusieurs métiers.
Éric Charbonnier, on ne reviendra plus en arrière. Vous qui êtes spécialiste éducation à l'OCDE, c'est-à-dire qu'on ne reviendra plus en arrière sur l'allongement, sur la durée des scolarités et des études.
Non, mais on aura des réflexions sur les modes de financement. Comme vous avez dit, le surendettement, c'est un véritable problème dans certains pays. Donc, ça veut dire que la formation n'est pas au niveau de la qualification. Et puis, on aura de plus en plus de réflexions sur le qualitatif, les compétences, sur vraiment cette idée que les jeunes qui sortent avec un master, avec une licence, vont avoir un savoir-faire qui va les aider à changer de travail tout au long de leur carrière.
Alors, vous le savez, aujourd'hui, les jeunes ont les yeux rivés vers les comparaisons internationales. Vous, à l'OCDE, vous produisez des comparaisons internationales sur le niveau des lycéens, par exemple, sur ce qu'apprennent les jeunes et ce qu'ils maîtrisent au lycée. Mais aujourd'hui, les jeunes regardent les comparaisons internationales entre les universités, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans cette concurrence accrue de vouloir absolument se payer une marque, un diplôme en fonction de sa notoriété au détriment de la vraie rentabilité des études par rapport au marché de l'emploi?
Ça peut être une tendance. Une autre aussi est que certaines universités ont plus de moyens que d'autres grâce aux frais d'inscription, que ça veut dire comme la massification continue, certaines universités, celles en France et dans les pays européens, vont manquer de ressources pour assurer une qualité de formation. C'est ça aujourd'hui. Diversifier les sources de financement, frais d'inscription, participation des entreprises, ça permet d'augmenter la qualité des filières.
Merci à tous les trois. Éric Charbonnier, spécialiste de l'éducation à l'OCDE. Merci à vous, Pierre Chavot. Vous publiez Réussir avec ou sans le bac, avec beaucoup d'humour et puis beaucoup de conseils aussi pour pas déprimer. Merci à vous Séverine Chauvel. Course au diplôme, qui sont les perdants? C'est publié aux éditions textuelles. Cécile Lavolo-Caminéran, Romain Dubrac, Didier Cherouze pour préparer cette émission. On se retrouve lundi, nous parlerons des femmes et des jeunes en Arabie Saoudite. Peuvent-ils changer le pays et les mentalités? Clarence Rodriguez, correspondante pour RFI, sera notre invitée. Bien sûr, vous pourrez dialoguer et la questionner.